Blog Talk Radio.
Bavuga amahoro bahishe imihoro inyuma, uti bite ngo n'ubuhoro nijoro bagakora amahano. Abo n'abahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo, abo n'abasinya bagaseka bagahoberana. Nibategereza gutaha baratuma rukambikana, maza abana bakahagwa ababyeyi bakarira. Nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi, ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama,
amahoro ryake ye baba ndatabaza.
Kama wakati warashili warama wana wake wanalia, wana omana imani wanachotaka ni amani, wana omana imani wanachotaka ni amani.
Chers auditeurs, chères auditrices, chers Rwandais, chères Rwandaises, chers amis du Rwanda, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette première émission qui va passer régulièrement sur la radio Itémé. La radio Itémé est une radio indépendante et c'est une radio où le principe conducteur est le pouvoir de la parole. Et donc aujourd'hui, nous avons deux invités. Et nous allons vous parler de la situation du Rwanda. La situation du Rwanda qui est, pour nous en tant que Rwandais, alarmante. Nous allons vous présenter le portrait actuel du Rwanda en passant par plusieurs angles. L'angle de la sécurité économique, sociale. Et nous allons aussi parler du féminisme au Rwanda. Parce que c'est très important. Nous voulons démontrer comment les femmes sont instrumentalisées dans ce pays. Et donc, notre objectif et de visibiliser les problèmes que les Rwandais rencontrent, auxquels les Rwandais font face. C'est aussi de mobiliser, de sensibiliser la communauté internationale, les amis du Rwanda, à en parler et surtout à se mettre en action pour trouver des solutions durables qui pourraient nous apporter une paix durable. Car les Rwandais sont un peuple, c'est une nation, c'est un petit pays, mais c'est une grande nation qui mérite du respect et qui mérite cette paix après tant d'années de guerre. Et donc, sans plus traîner, nous sommes avec Anicette Kaleye, qui fut journaliste au Rwanda et qui est un activiste des droits de l'homme. Alors, Anicette, je ne sais pas si tu m'entends, pourrais-tu saluer nos auditeurs et nos auditrices?
Je te remercie, Achille. Merci de l'invitation. Félicitations aussi d'avoir eu cette idée que je trouve brillante, d'organiser cette émission en français, parce que on n'a pas que des auditeurs en Kinyarwanda, il y a nos compatriotes qui sont francophones, mais également nos amis de l'étranger, expatriés qui parlent français, ou même un peu plus tard, j'espère que tu auras l'idée d'organiser une même émission en anglais. Voilà, donc j'adresse un salut fraternel et cordial à tous nos auditeurs, aux membres de l'ARC, l'Alliance rwandaise pour le changement, à nos sympathisants, mais également à d'autres frères et sœurs, rwandais ou pas, et qui nous suivent en direct ou en différé. Salutations à tout le monde.
Merci beaucoup pour la cette salutation fraternelle. On te salue aussi. Et là, je voudrais demander à notre cher compatriote Richard Rangira s'il est à l'écoute. Est-ce qu'il nous reçoit? S'il nous reçoit, j'aimerais qu'il salue nos auditeurs et nos auditrices.
Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'endroit là où vous êtes.
Oui, ici c'est bonjour.
Je vous remercie.
Au Canada, c'est bonjour.
Je vous remercie beaucoup pour nous accorder vraiment la parole sur votre radio. Je salue aussi les techniciens de la radio. Je salue aussi les auditeurs et les auditrices rwandais, rwandaises, partout où ils sont, partout où ils sont dans le monde, pour que le message que nous voulons passer, que ce soit vraiment les bienvenus dans leur vie quotidienne. Merci.
Merci. Je vais prendre une petite minute pour dire à ceux qui nous écoutent qui tu es. En fait, Richard, tu es né au Rwanda, tu as fui le Rwanda en 1994, tu avais entre 6 et 7 ans à peu près. Et donc tu as vécu toutes les guerres et toutes les atrocités qui ont eu lieu dans le pays voisin du Rwanda, la RDC, donc la République démocratique du Congo. Rappelons que ces atrocités ont été aussi causées en partie par le régime de Paul Kagame, donc l'État rwandais, bien sûr soutenu par quelques puissances. Et vous êtes jusqu'à présent réfugié après tant d'années. Donc c'est une triste réalité, mais pour ceux qui nous écoutent, donc nous avons des invités. Excusez-moi, nous avons des invités qui ont de l'expérience, qui vont vous partager leurs avis par rapport à leur récit de vie et puis par rapport aussi à leur expérience de vie. Quant à moi, je suis Achille Kamana, je vais animer cette émission et être parfois chroniqueur. Nous allons essayer de faire cette émission à peu près dans 1h30 maximum. Et nous allons essayer de toucher tous les points. Et ça ne sera pas la dernière émission parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous en aurons d'autres. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais demander à notre chère Anicette de nous faire une petite brève aperçu du portrait du Rwanda en passant par... disons l'histoire du Rwanda. En quelque sorte, en quelques mots, pour que ceux qui nous écoutent sachent un peu d'où on vient et où on en est en ce moment. Anicette, la parole est à toi.
Bon, merci encore une fois. Achille, comme tous les Rwandais savent que parler de l'histoire du Rwanda n'est pas une tâche facile. C'est quelque chose de très compliqué, surtout parce que le Rwanda est un des rares pays où il n'existe pas de consensus sur le propos historique, en fonction de l'angle duquel on observe l'histoire. Bien sûr, sur le plan factuel, on observe les mêmes événements ayant marqué l'histoire de notre pays, mais quand il s'agit de les interpréter, leur donner un sens, faire une analyse plus ou moins approfondie, on se heurte toujours à des divergences plus ou moins graves. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que peut-être que je serai, comme je le disais, en désaccord avec certains de mes compatriotes, mais on ne peut pas ne pas dire ce qui a existé et ce qui a marqué l'histoire de notre pays. Voilà, comme tu m'as demandé de parler de l'histoire, mais je dirais tout simplement, comme vous le savez tous, que sur le plan géographique, le Rwanda se place à mi-chemin entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Nous sommes frontaliers avec 4 pays, la Tanzanie à l'Est, le Burundi au Sud, la République démocratique du Congo à l'ouest et l'Ouganda au nord. Et donc je dis que ça se trouve à mi-chemin, à cheval entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, ce qui fait que à un certain moment on est encore membre de la communauté des États de l'Afrique centrale, et maintenant on est également un membre de la communauté des pays de la communauté de l'Est africaine. Donc c'est que vraiment on est à cheval. Voilà, ça c'est la situation géographique. Pour ce qui est de l'histoire, je dirais sans aller très loin dans l'histoire de notre pays, je dirais que le Rwanda est une ancienne colonie d'abord allemande, puis belge après la deuxième seconde mondiale. L'histoire du Rwanda, il existe une période que j'appelle la période des charnières, qui est l'année de 1959, l'année où il y a eu des événements que nous pouvons qualifier de révolution, même si je parlais des désaccords tout à l'heure. Il y a des gens d'entre nos compatriotes qui n'acceptaient pas.
Excuse-moi, Anicette, de couper la parole. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler en background.
J'entends une voix également, oui.
Oui, je pense que là, c'est réglé.
Voilà, merci.
Ok, donc tu peux continuer, merci.
Donc, je venais de brosser un petit tableau sur la situation géographique et la voie continue. Voilà. Je brossais ce petit tableau sur notre situation géographique, et du moins à l'intention de nos amis étrangers, les amis du Rwanda, même si je pense que beaucoup le savent. Mais je commençais à parler de l'histoire et notre histoire. J'avais parlé de la colonisation allemande et la colonisation belge, la tutelle belge. Après, je vais peut-être souligner aussi le fait que le Rwanda, jusqu'en 1959, était dirigé sur le plan autochtone par l'Omrami, ou le roi traditionnel, qui n'avait pas beaucoup de pouvoir sous la tutelle belge, mais qui représentait quand même le pouvoir nationale. Et cette période que je qualifie de charnière, la période qui va de 1959 à 1962, la date de l'accession du pays à l'indépendance, c'est une période qui a connu beaucoup de bouleversements, qui a connu beaucoup de changements, qui ont encore des répercussions à l'heure qu'il est sur la situation politique du pays et sur la vie des Rwandais en général. C'est une période qui a vu beaucoup de Rwandais prendre le chemin de l'exil, même si les Rwandais s'enfuyaient également avant cette date-là. Mais là, ça a connu un mouvement massif des réfugiés rwandais qui partaient en exil à cause de ces événements politiques qui ont marqué, qui ont commencé le 1er novembre 1959. Voilà, donc c'était la révolution. Le pouvoir du Mouami a été déchu. Après plusieurs tractations, il y a eu l'abolition de la monarchie et l'accession du pouvoir au pouvoir par des républicains, parce que la royauté venait d'être bannie. Et nous avons parlé dans notre manifeste, le manifeste de la RC, de la situation politique depuis 1962, parce que je n'ai pas parlé de la composition sociologique de notre histoire liée aux ethnies, des Hutus, des Tutsis et des Twa, très minoritaires, mais les conflits qui ont existé, qui ont émaillé l'histoire de notre pays, étaient plutôt entre les Hutus et les Tutsis. Le Mouami était issu de l'ethnie Tutsi et les républiques qui ont suivi, qui ont mené à bien la révolution de 1959, qui ont conduit les événements qui ont abouti à l'accession du pays à l'indépendance, c'était plutôt les Hutus. Et malheureusement, depuis cette date-là, les pouvoirs politiques qui vont se succéder à la tête du pays vont être marqués par cet attachement aux ethnies. La première république, c'était un pouvoir qui a été marqué par son attachement, son appartenance au peuple Hutu, au détriment des Tutsis, mais également des Twa. Il y a eu une forte marginalisation des citoyens rwandais issus des Tutsis. En 1973, il y a eu un coup d'État militaire qui a renversé la première république et instauré la deuxième. Et cette fois-ci, les Tutsis ont continué à être marginalisés. Mais non seulement les Tutsis ont été marginalisés, mais on a ajouté aussi d'autres victimes de la discrimination qui étaient les ressortissants des régions qualifiées du sud du pays. En fait, toutes les régions du sud, à part une petite partie du nord du pays. Voilà. Cette façon de conduire les affaires du pays sous la bannière de son appartenance ethnique, on fait que malheureusement, beaucoup de Rwandais se sont sentis exclus. Et ça a continué comme cela, jusqu'en 1990, où il y a eu un mouvement des réfugiés rwandais qui vivaient en Ouganda surtout, mais également dans d'autres pays, surtout limitrophes, même s'il y a des gens qui sont venus des pays lointains. Mais le gros du tas venait de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi et du Congo. Et donc, c'est eux qui ont formé le mouvement, le Front Patriotique Rwandais, actuellement au pouvoir, qui a pris les armes et qui a finalement pris le pouvoir en 1994, en passant par beaucoup de crimes contre l'humanité, beaucoup de massacres dont ils se sont rendus coupables, mais également il y a eu le génocide des Tutsis, commis par une partie de l'armée et la milice pro-gouvernementale qui était sur le point d'être déchue. Et voilà, c'est la période que beaucoup de gens ont connue comme cela. C'était une période où il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de victimes, où les anciens réfugiés en 1994 sont rentrés au bercail mais où beaucoup d'autres Rwandais sont partis en exil. Ça veut dire que le pouvoir dont on avait besoin à cette époque-là, le pouvoir du FPR en l'occurrence, était un pouvoir qui avait une grande responsabilité pour réconcilier les Rwandais. Voilà, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ça n'a pas été le cas, puisque jusqu'à présent, il y a une grande partie de la population, je parle de la population Hutu, qui se sent mise à l'écart de la conduite et des affaires du pays. Mais également, il y a eu des divisions au sein du mouvement qui ont fait qu'il y a même des Tutsis qui avaient cru accéder au pouvoir en 1994, qui ont vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas comme ils avaient espéré, et dont la plus grande partie maintenant se trouve également en exil. Et donc, c'est pour cela que vous voyez que le mouvement des gens de l'opposition s'étend de plus en plus, s'élargit, parce que les Rwandais ont compris que le pouvoir qui est en place au Rwanda est un pouvoir qui ne joue pas la carte de la réconciliation, qui joue une carte de la division sur fond de massacres, d'arrestations arbitraires, des procès kangourou, comme on dit, et malheureusement, beaucoup de Rwandais partent encore en exil pour échapper à la répression. Achille, je ne sais pas si j'ai brossé ce tableau géographique et historique comme tu le voulais, mais s'il y a des questions, j'essaierai d'apporter quelques clarifications, sinon je laisse la parole à mon collègue. Merci bien.
Merci beaucoup, Anicette. Moi, je voulais, en fait, réitérer le fait que quand l'OFR a pris le pouvoir, disons que la première République et la deuxième ont échoué par rapport aux aspirations rwandaises. Disons qu'il n'y a pas eu de politique ni de gouvernance qui aurait pu rassembler tous les Rwandais autour de ce que j'appellerais l'intégration qui passerait par l'exercice de la citoyenneté rwandaise. Il y a eu toujours des divisions basées sur des ethnies, mais quand on retourne en arrière dans l'histoire, beaucoup mentionnent qu'il y avait des clans et non des ethnies, et que cette histoire d'ethnie était plus caractérisé par une classification économique. Ensuite, cette classification économique de l'ancien Rwanda va se transformer en une classification politico-ethnique et, comme je l'ai dit, les deux premières républiques vont échouer à enrayer cette division-là. Et quand l'OFR prend le pouvoir, je me rappelle très bien, en 1994, même si j'étais encore jeune, je sais qu'ils avaient, un manifeste dans lequel il y avait des valeurs ou des points importants sur lesquels ils allaient se baser pour instaurer une nouvelle gouvernance qui aurait pu intégrer tous les Rwandais. Parmi ces principes, il y avait le premier qui était de ramener ou bien d'instaurer l'unité rwandaise. Le deuxième, c'était de renforcer la sécurité pour tout le monde, la sécurité déjà et des biens. Le troisième, c'était d'instaurer une gouvernance basée sur la démocratie. Le quatrième était d'instaurer des mécanismes pour que les Rwandais aient accès à la propriété privée. Ça, c'est sur le point économique. Le cinquième élément, je me rappelle très bien, c'était aussi de lutter contre tout ce qui était mauvaise gouvernance, mauvaise gestion des biens de l'État et des biens des citoyens, de lutter contre la corruption, etc. Il y avait aussi le sixième point qui était d'améliorer les conditions de vie des Rwandais. Le septième point qui est très important, c'était d'enrayer ou de faire en sorte qu'il n'y ait plus de réfugiés rwandais, parce que le FPR était composé en majorité par des gens qui étaient réfugiés depuis 59 ou qui sont nés même dans des pays, dans les pays limitrophes du Rwanda, donc des gens qui avaient le statut de réfugiés. Et donc, ils avaient cette optique où ils manifestaient cet intérêt d'enrayer tout ce qui était problématique en lien avec le fait que les gens étaient des réfugiés. Le huitième point était d'améliorer aussi la diplomatie, c'est-à-dire le bon voisinage avec les pays limitrophes. Et il y a eu un dernier point qui était le neuvième, qui était de lutter contre tout ce qui est idéologie du génocide. Et là, le portrait actuel du Rwanda est tellement contraire à ces principes sur lesquels ont été fondés le FPR. Notamment, je pense qu'il y a quelqu'un qui parle en background. Est-ce qu'on peut mettre ça sur mute? Au studio, est-ce que vous pouvez nous aider et mettre... Ok. Anicette, est-ce que tu me reçois toujours? D'accord.
5 sur 5.
D'accord.
Moi, je te reçois.
Yes.
Yes. Oui.
Ok. Est-ce que tu connais l'origine de ce bruit que j'entends en arrière-plan? Ok, je vais... au studio, pouvez-vous nous aider avec ce bruit? En ce temps, je vais continuer pour ne pas nous éterniser. Et donc, en ce moment, sur le point de la sécurité, ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont exécutés de façon sommaire. Sur le point, sur la question des réfugiés, il y a toujours des réfugiés. Puis ils sont plus nombreux qu'avant 1994. Et donc, finalement, le FPR a échoué sur toutes ses politiques. Durant toutes ces années, est-ce qu'on mentirait en disant que le FPR aurait échoué sur toutes ses politiques? Anicette, qu'est-ce que tu veux nous dire de cela?
Merci de me compléter, Achille. Je n'avais pas voulu entrer dans les détails, parce que si je dis que et même les gens qui sont rentrés de l'exil en 1994, croyant bénéficier des bienfaits du pouvoir, qui étaient censés appartenir à leur ethnie, ont vu finalement que les choses ne marchaient pas, et beaucoup d'entre eux se retrouvent maintenant en exil encore une fois. Il y a des gens qui sont nés à l'étranger, en exil, qui sont nés réfugiés maintenant. Ils sont rentrés maintenant, ils sont redevenus réfugiés. Pourquoi justement, c'est ce que tu étais en train de souligner, c'est que les espoirs suscités par le mouvement du FPR, la démocratie, parce qu'on disait qu'on voulait instaurer un état de droit dans lequel chacun se sentirait libre. C'est ça, la démocratie totale, comme nous la connaissons ailleurs, du moins dans les pays occidentaux. Justement, tous ces espoirs-là se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Et donc, maintenant, ce qu'on voit, si on devait détailler l'état de l'état du FPR, les méfaits dont ils seront coupables, les victimes qui sont maintenant innombrables, les biens qui sont détruits, des citoyens qui avaient fait tout pour avoir un toit, un logis, les gens qui ont cru qu'ils pouvaient exercer librement la liberté d'opinion et d'expression, tous ces gens-là qui ont été victimes des brutalités de la répression de ce régime-là se comptent par milliers, des centaines de milliers de gens. Voilà, donc c'est la déception totale du peuple rwandais sous la gouvernance du FPR. Voilà, donc tu as bien raison de souligner cet état de fait et c'est pour cela justement que les gens sont en train de se organiser pour changer cet état de fait et voir les moyens d'apporter de soulager le peuple rwandais qui croupit actuellement sous un poids très, très énorme de la dictature, que disais-je, de la tyrannie de ce régime et du FPR. Merci, Achille. Il y a des gens qui ne sont pas sur mute, hein. On attend ce qui se dit derrière le micro.
Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez?
Je vous attends, oui.
Okay. Anicette, vous allez m'excuser, j'ai été... Oui, d'accord. Est-ce que vous avez terminé votre point, Anicette?
Je crois que j'étais à la fin de mon propos, oui.
D'accord. Je te laisse terminer ou je donne la parole à Richard si tu as terminé.
Je ne sais pas si tu as un complément à faire à l'intervention que je viens de faire. Peut-être qu'on peut se compléter mutuellement. Mais sinon, oui, on passe la collègue à notre collègue.
D'accord. Richard, on vient de parler un peu du portrait du Rwanda actuel, de la situation actuelle du Rwanda. On a démontré avec des faits et des points que le FPR a échoué sur toute sa politique et tout le rêve qu'il a porté aux Rwandais, notamment sur la question des réfugiés, sur la question de la sécurité, et puis économiquement, les Rwandais vont très mal. Et donc, j'aimerais t'entendre, j'aimerais que tu prennes deux minutes et que tu nous dises ce que tu en penses, surtout toi qui es en ce moment militant des droits de l'homme, mais qui est aussi réfugié depuis 1994. Oui. Et donc, ça, c'est aussi un exemple de l'échec du FPR. Pourrais-tu te prononcer sur ces points-là? Merci.
Merci beaucoup pour la parole, Monsieur Achille. Merci, mon frère. Celui à qui on est ensemble dans la
studio. Il s'appelle Anicette.
Oui. Effectivement, en ce qui concerne l'historique de notre pays, c'est vraiment une histoire tellement riche, mais chacun essaie de l'aborder de sa manière, selon ses intérêts politiques, selon ses intérêts de provenance, ou bien des intérêts soit tribal. Alors, à ce moment-là, donc, chacun cherche à tirer une couverture selon ce qu'il est. Donc, sinon, l'histoire du Rwanda est tellement riche. Je ne vais pas continuer à stigmatiser alors que vraiment le pays, le Rwanda, aussi sous le plan de la scène internationale, quand même, c'est un pays où on peut dire que depuis c'est un pays qui était vraiment connu. Mais ça, cela ne tient. C'est un pays aussi qui a connu trop d'atrocités depuis des années des indépendances. Mais si vous voulez un peu entrer en détail de ce qui est le régime en place, en tout cas, c'est vraiment une catastrophe.
Dear customer, your SIM registration documents are not clear. To avoid your number being suspended, kindly verify your documents at your nearest MTN outlet or agent with your national ID. Dear customer, your SIM registration documents are not clear.
On a un problème technique, on va s'excuser auprès de nos auditeurs et auditrices. Est-ce que le studio peut nous aider à propos de ça, sur ça? Richard, est-ce que tu nous entends?
Oui.
Richard, est-ce que tu nous entends? Richard, est-ce que tu nous reçois? Anissette, est-ce que tu nous reçois?
Moi, je vous reçois, mais Richard, on n'entend pas. Hein? On ne l'entend pas. Je...
D'accord. On va continuer sur en fonction du programme qu'on avait déjà établi. Et là, chère Anissette, j'aimerais qu'on parle un peu de la situation sociale au Rwanda. Je vais m'expliquer. En ce moment, comment vivent les Rwandais et surtout comment le Rwanda vit avec ses voisins. Sur le plan social, comment est-ce qu'on peut décrire les Rwandais en ce moment par rapport à la situation alarmante dans laquelle ils vivent et à laquelle ils font face?
Alors, tu me parles de la vie sociale des Rwandais, en fait. Hein?
Oui. Disons que je veux qu'on élabore un peu sur le féminisme, sur la pauvreté extrême à laquelle les Rwandais font. Comment vit le Rwandais moyen en ce moment? Et comment est-ce qu'on peut analyser la question des inégalités au Rwanda en ce moment de façon systémique? Et quel est le rôle qui est joué par la gouvernance dans ces inégalités?
Bon, pour répondre à cette question, qui n'est pas facile, je dois reconnaître que c'est un peu compliqué, mais en même temps, on sait ce qui se passe là-bas. La situation est très compliquée pour la plupart des Rwandais. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement du régime du FPR, il y a eu en réalité deux classes sociales. C'est une société aristocratique en réalité où il n'existe pas de classe moyenne. Il y a des gens maintenant qui sont très très riches. Il y a d'autres personnes majoritaires qui sont très très pauvres. Donc je ne vais pas parler des oligarques qui sont au pouvoir et qui ont de très grandes fortunes. Je ne parlerai pas de la classe moyenne parce qu'elle n'existe actuellement pas. Mais je vais parler justement des gens qui sont en bas de l'échelle, qui vivent dans une misère sans précédent. On peut diviser ces gens-là, nos compatriotes qui vivent dans une pauvreté extrême, en quelques deux ou trois catégories. Il y a des gens qui, soi-disant, ont un emploi, donc qui sont salariés, mais qui ne touchent pas des salaires qui leur permettent de vivre décemment. Il y a des gens, si vous prenez comme un instituteur, un enseignant, à deux à l'école primaire, il va toucher un salaire d'à peu près 50 000 francs. 50 000 francs, ça veut dire c'est comme 50 euros. Alors que le loyer moyen à Kigali est loin au-dessus de son salaire qu'on lui propose. Donc, il y a des salariés qui ne vivent pas décemment, qui vivent dans une pauvreté extrême. Il y a des gens maintenant qui n'ont pas d'emploi. Il faut souligner le fait que maintenant, au Rwanda, le chômage a explosé le plafond. Il y a des jeunes gens, qui arrivent sur le marché de l'emploi, mais il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre, même le très peu qu'il y a sont réservés aux enfants issus des familles privilégiées. Donc il y a une pauvreté extrême liée également au chômage endémique qui est en train de secouer notre pays. Voilà. C'est ces gens-là, les salariés pauvres, et les chômeurs, les demandeurs d'emploi, qui sont innombrables, très nombreux. Et puis maintenant, il y a le gros de la population, ils ont des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ne savent pas comment vivre, bâtiront une vie de subsistance. L'économie rwandaise, d'ailleurs, c'est une économie de subsistance. Les gens se lèvent le matin pour aller chercher quelque chose à manger. Et s'ils ont la chance de trouver un petit boulot quelque part, ils le font et puis ils rentrent avec de quoi manger, de quoi nourrir la famille. Donc, il y a ces gens-là. Mais maintenant, vous savez également, avec la pandémie du Covid, le Rwanda a pris des mesures exceptionnellement compliquées pour tout le monde. Et ces gens-là, justement, qui vivaient de cette économie de subsistance, maintenant, je ne sais même pas comment ils peuvent survivre. Donc, ces gens-là, c'est la misère qui prévaut dans le pays. Il y a une classe supérieure qui vit dans une opulence, je dirais, insolente. Mais beaucoup de Rwandais vivent dans une misère sans précédent. Tu as parlé également de la situation diplomatique entre le Rwanda et les pays frontaliers, l'Ouganda surtout et la Tanzanie. Et maintenant, avec la pandémie du Covid, mais aussi avant, avec les problèmes qu'il y avait entre surtout le Rwanda et l'Ouganda et le Rwanda et le Burundi, on avait fermé les frontières. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de nos compatriotes, des ressortissants rwandais, qui faisaient le va-et-vient entre le Rwanda et l'Ouganda surtout, pour aller essayer de faire des affaires, pour essayer de trouver de quoi manger, de quoi nourrir la famille. Maintenant, ce n'est plus possible, ce qui fait que la misère des Rwandais s'est aussi accrue avec les problèmes diplomatiques entre le Rwanda et ses voisins. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié un élément, tu peux me compléter. Sinon, si je me souviens de quelque chose d'autre, je me permettrai de te redemander la parole. Merci bien.
Merci Anicette pour cette analyse qui est tout à fait véridique et réelle. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que, comme tu l'as dit, déjà le Rwanda, c'est un pays, selon la science, hein, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Donc, il peut baser son économie sur l'agriculture, l'élevage, pour répondre aux besoins de la population, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Et c'est aussi un pays qui peut beaucoup miser sur le service, parce que nous n'avons pas de richesses naturelles comme nos voisins du Congo, par exemple. Et aussi, on est enclavé. Et donc, cela nécessite des stratégies économiques assez intéressantes pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le Rwandais moyen, et Dieu seul le sait, la majorité des Rwandais sont pauvres. Sont même plus pauvres qu'avant 1994. Et malgré cela, nous n'arrêtons pas de voir dans les médias sociaux, puis dans les journaux par-ci, par-là, et même par certaines institutions internationales, que le Rwanda est un exemple sur le point économique, qui a une belle croissance. Si je vous rappelle bien, il y a même une année où on comparait la croissance du Rwanda à celle de la Chine. Mais nous Rwandais, qui avons des amis, des familles, et puis qui connaissons très bien ce pays, nous savons que ce n'est pas la réalité. Et donc, il y a une forme d'instrumentalisation des Rwandais pour répondre aux besoins d'une minorité qui est au pouvoir. Je ne parle pas de la minorité ethnique, mais je parle plus de la minorité de ceux qui détiennent le pouvoir, et cela cause des dégâts ou cela occasionne des conséquences assez tragiques sur la vie du Rwandais ou de la Rwandaise. Et en ce sens, je vais parler aussi du féminisme au Rwanda. Ceux qui nous écoutent savent très bien que le Rwanda se vante d'avoir une assemblée nationale qui est représentée par 64% des femmes, qui est un record mondial, reconnaissons-le, mais pour nous qui connaissons très bien ce qu'est le féminisme, ce n'est pas la représentativité en chiffres, c'est l'amélioration des conditions de vie de la jeune féminine, notamment aussi de les intégrer et puis de leur donner ce qu'on appelle de leur permettre d'avoir accès à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans ce pays. Or, malgré 64% de femmes, nous avons vu des vidéos où des policiers étaient en train de frapper des femmes pour rien. Nous savons qu'il y a des jeunes filles qui sont vendues, il y a de la traite humaine dans ce pays. Il y a des jeunes filles qui sont des prostituées, qui n'ont pas le choix. Il ne s'agit pas d'un choix, mais il s'agit des conditions de vie qui sont assez atroces, qui font que ces filles optent pour la prostitution afin de subvenir à leurs besoins. Mais pire encore, les seules deux femmes qui ont osé briguer la présidentielle au Rwanda, je parle de Mme Victoire Ingabire et Diane Rwigara, ont été mises en prison. Et puis, ce n'était pas des peines de un an ou deux ans, c'était des peines clairement de plus de deux ans. Il s'agissait de 8 ans ou de 15 ans, si je me rappelle très bien. Et donc, la situation actuelle du Rwanda ou des Rwandais au Rwanda est alarmante et nous voulons que ceux qui nous écoutent comprennent bien que nous ne sommes pas là dans une campagne de vouloir dénigrer nécessairement le régime du Rwanda, mais nous sommes là pour parler des faits et puis de visibiliser la situation, le portrait socio-économique et surtout politique du Rwanda, parce que si ça ne change pas, nous sommes en train d'aller vers une autre tragédie. Donc c'était le point que je voulais rajouter. Et Anicette, j'aimerais qu'on parle beaucoup de la question de la sécurité. La sécurité, c'est un sentiment, c'est le fait aussi d'avoir le sentiment de vivre dans un pays sécuritaire, c'est d'avoir des instances ou des institutions qui répondent aux besoins de la population, notamment l'armée qui défend le pays et la police qui est là pour faire respecter l'ordre, la loi et l'ordre. Comment, à peu près en 5 minutes, pourrais-tu décrire le portrait actuel ou la situation actuelle en ce qui concerne la sécurité au Rwanda? Et aussi, si tu peux toucher la sécurité ou le voisinage avec les pays limitrophes du Rwanda, notamment le Congo, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda. Je sais que tu en as parlé, mais en termes de sécurité, pourrais-tu éclairer ou informer nos auditeurs et auditrices sur cette situation? La parole est à toi.
Bon, mais est-ce qu'on ne va pas monopoliser la parole à Chili? Est-ce que Richard nous suit ou pas
du tout? En fait, on a eu des problèmes de connexion avec Richard et on va tenter de le connecter dans pas long. Mais
D'accord, très bien.
De retour, on lui donnera l'occasion de s'exprimer aussi.
D'accord. Sur la question de la sécurité, je pense que c'est très lié à beaucoup d'autres secteurs, parce que le Rwanda est un pays, tu parlais du féminisme, et qui joue sur la communication politique. Donc, on va tout faire pour que les gens, surtout de l'extérieur, voient que la promotion du gender, du genre, est en marche, alors que réellement, c'est le contraire. Mais le but visé, ce n'est pas tellement de promouvoir les conditions de la femme, mais c'est pour montrer à l'extérieur que ça se fait alors qu'il n'en est rien en réalité. Donc, sur la question de la sécurité, ça se joue aussi sur ce plan de la communication politique, pour montrer aux autres qu'on est souci alors que la réalité est tout autre. Si on veut parler de la sécurité, il faudrait, comme tu venais de le faire, qu'on divise en deux parties la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Pour la sécurité intérieure, j'ai suivi récemment sur les réseaux sociaux une compatriote rwandaise qui vit, je crois, avec toi à Chile, au Canada, qui disait que le FPR est comme un homme. Tu aurais violé une femme et tu l'obliges à lui dire qu'elle l'aime. Voilà. Donc, c'est une comparaison très pertinente qu'elle a faite. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Si on prend le cas du Rwanda, le FPR a pris le pouvoir par les armes. Et j'ai insisté sur ma première présentation sur les crimes qu'il a commis en prenant le pouvoir. Les soldats du FPR sont arrivés à Kigali en enjambant les corps des gens qu'eux-mêmes venaient de massacrer ou des victimes du génocide et des Tutsis commis par l'autre parti. Maintenant, depuis son arrivée au pouvoir, ils ont déployé l'armée dans tous les coins et les recoins du pays. Il n'y a pas une petite portion du Rwanda où il n'y a pas la présence militaire au Rwanda. Donc, ça veut dire que les gens ne respirent même pas. Quoi que tu fasses, il y a l'œil de l'armée qui est sur toi. Et il y a beaucoup d'agents de renseignement qui sillonnent le pays. Ce qui veut dire qu'en termes de liberté, c'est très compliqué. Quand tu sais que tu es suivi dans tous tes mouvements, quand tu sais que quoi que tu fasses, il y a l'œil, le grand frère, hein, le big brother, son œil est sur toi, donc il faudra que tu te tiennes tranquille. C'est comme cela que les Rwandais vivent. Il n'y a pas de sécurité. Et si jamais il y a un petit écart, c'est là où justement nous voyons des répressions brutales, des massacres, des arrestations arbitraires, des arrestations qui souvent se soldent par des fusillades injustifiées. Les gens qui sont en détention aux stations de police, mais on entend que les mêmes stations de police publient des communiqués comme quoi un tel a été fusillé alors qu'il voulait prendre la fuite, s'échapper. Voilà, c'est ça la sécurité. Les Rwandais vivent dans une peur croissante, une peur constante qui ne s'arrête pas justement à cause de ces gens-là qui leur disent qu'ils protègent la sécurité de la population, alors que c'est plutôt le contraire qui cause l'insécurité au sein de la population rwandaise. Et que s'il y a un moindre mouvement d'écart, on voit des cadavres jonchés les rues. Voilà. Là, c'est la première chose sur le plan sécuritaire. Et on attend souvent même les discours des dirigeants, à commencer par le premier d'entre eux, le chef de l'État, dire dans des discours officiels que s'il y a un moindre mouvement d'écart, que si on ne suit pas à la lettre ce qui est dicté par le pouvoir, les gens vont subir des conséquences. Et les conséquences, des fois, on les voit. Je vais peut-être prendre un petit exemple que tu dois bien connaître. Les réfugiés congolais qui vivaient à Kibuye, à Tiziba, qui ont eu le tort de manifester devant le bureau du Haut Commissariat des réfugiés, le HCR, pour demander la ration qu'ils ne recevaient plus, la ration alimentaire. Et ce qui a suivi, c'est que ces gens-là ont été violentés, brutalisés, et beaucoup d'entre eux ont été massacrés. Là, c'était un petit exemple pour éclairer ce que je disais. Voilà, donc ça, c'est sur le plan intérieur, les gens ont peur, la présence militaire est constante et évidemment l'exercice des droits, on n'en parlait pas parce que ça n'existe pas. Sur le plan extérieur, on parlait tout à l'heure des problèmes de diplomatie entre l'Ouganda et le Rwanda, entre le Burundi et le Rwanda. On n'a pas parlé, par exemple, de la situation de l'Est du Congo, qui préoccupe beaucoup le Rwanda parce qu'il y a beaucoup de présence des réfugiés des Rwandais, des réfugiés rwandais, dont certains d'ailleurs veulent exercer leur droit de lutte pour leur liberté, de rentrer au pays pour vivre pacifiquement en toute liberté. Le Rwanda est très inquiet de cette situation-là. Et il déploie beaucoup de moyens militaires, politiques et diplomatiques pour mater les opposants armés ou pas qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Et la présence des réfugiés rwandais dans les pays limitrophes, en Ouganda, au Burundi, et dans une moindre mesure en Tanzanie, préoccupe beaucoup le Rwanda, qui fait tout pour envoyer ses agents, les agents de renseignement, les agents secrets, pour d'abord déstabiliser les réfugiés qui vivent en exil, mais aussi pour, des fois, leur faire du mal, leur faire du tort. Il y a eu des massacres, il y a eu des destructions de biens. On a entendu en Tanzanie, on a entendu surtout en Zambie. Mais le gros problème se trouve en Ouganda, à l'est de la République du Congo et au Burundi. Donc pour dire que sur le plan de la sécurité, que ce soit intérieur ou extérieur, les problèmes sont immenses. Le Rwanda n'a pas de volonté politique de résoudre ces problèmes pacifiquement et donc on ne voit pas l'issue de cette situation et évidemment c'est pour encore une fois que les gens s'organisent pour trouver une solution pacifique et durable à ce phénomène qui nous préoccupe tous. Merci Assine.
Merci beaucoup, cher Anicette, pour cette analyse assez tranchante. Là, on a Richard de retour dans nos studios. Richard, j'ai une question pour toi, si tu m'entends bien. Ma question est la suivante. On a démontré avec certains éléments que le FR a échoué sur le rêve qu'il a porté ou sur cet idéal qu'il a porté au Rwandais. Richard, tu es réfugié depuis l'âge de 6 ans ou 7 ans, depuis 1994, et jusqu'à présent, tu es réfugié. Pourquoi tu es encore réfugié? Pourrais-tu nous éclairer ou éclairer ceux qui nous entendent ou nous écoutent sur cette question? Pourquoi jusqu'à présent, tu es réfugié et un peu de mots, tu es passé par quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es toujours dans une situation où tu ne peux pas jouir de cette liberté que tu as eue dès la naissance d'être un citoyen rwandais?
Pour répondre brièvement, c'est une situation très classique de la région des Grands Lacs, si vous voulez. Donc, en fait, je pense à même les actualités de la région, sous-région, et expliquent exactement ce qui se passe. La menace du régime de Kigali a vraiment terrorisé presque toute la région, de façon que pour nous, ça ne nous dépasse. Il trouve cette force vraiment de mater toute une population de la région. Sinon, à ce qui concerne la sécurité, que ce soit la sécurité physique et la sécurité constitutionnelle, donc rien ne peut permettre un réfugié rwandais de retourner encore au Rwanda, ni que c'est la force ou bien la brutalité dont le régime utilise afin que les gens puissent donc rentrer comme des prisonniers, comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Sinon, personne ne peut vraiment entrer au Rwanda dans cette situation où le régime a installé une dictature fondée sur la tuerie, fondée sur les massacres, fondée sur une terreur qui ne cesse jamais. Alors, cela ne peut pas vraiment permettre que les gens puissent encore entrer au Rwanda. C'est tellement difficile. Et puis, autre chose, il y a un autre aspect. L'aspect, par exemple, l'aspect socio-économique. L'aspect socio-économique du Rwanda actuel ne pourra pas permettre de construire, d'y retourner. Peu importe les circonstances, vous voyez qu'ils ont même utilisé beaucoup de prétextes en venant à la République démocratique du Congo, soit en disant qu'il y a une menace. C'est vrai, il peut y avoir une menace, mais nous pouvons se poser des questions. Mais pourquoi il pourrait y avoir une menace? Pourquoi les Rwandais devraient donc prendre les armes pour se battre, pour se défendre? Pourquoi? Donc, il y a une multitude de questions, tout d'abord, qu'on pourrait se poser. Quand le régime de Kigali vient en République démocratique du Congo, il cherchait les réfugiés. Soit disant que ce sont des réfugiés qui se sont donc transformés en milices pour les menacer. Maintenant, il faut savoir pourquoi ces gens, pourquoi ces réfugiés devraient donc prendre les armes pour se défendre. C'est la question primordiale. Donc c'est pour vous dire que ces régimes ne donnent pas donc la stabilité et la paix d'amener ses concitoyens retourner au pays paisiblement. Parce qu'ils n'ont pas ouvert les portes pour que les gens puissent retourner au pays. Ils n'ont pas ouvert les portes sur le plan social, ils n'ont pas ouvert les portes sur le plan politique pour que les gens puissent retourner au pays. Même ceux qui y retournent ne trouvent pas la sécurité. De retourner dans leur cas. Donc, il y a une multitude de problèmes qui freinent toujours à ce que les réfugiés rwandais retournent dans le pays. Par exemple, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas question des droits de l'homme, mais il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas aussi de vie. Si vous voulez, vous avez entendu parler combien de fois les gens meurent de faim dans des villages. Hein? Les gens sont vraiment tellement pauvres. On ne sait pas quand le pays trouve des aides de la Banque mondiale, des institutions internationales, mais on ne sait pas où est-ce que cet argent est orienté. On ne sait pas si l'argent entre dans cette aristocratie qui dirige le pays ou bien l'argent est orienté dans des affaires de construire la dictature, puisque vous avez vu que c'est un régime en fait qui a beaucoup plus donc investi dans l'armée plutôt que d'investir dans les sociales de la population locale. Je ne sais pas si réellement c'est un régime qui est là pour juste donc satisfaire ses multinationales plutôt que de travailler pour son peuple. Bien entendu, c'est d'ailleurs un régime qui n'a jamais été voté par même la population. C'est un régime qui s'est imposé par les armes juste pour diriger le pays en main de fer. Donc, en tout cas, c'est pas un pays vraiment qui offre vraiment les droits de l'homme à ceux qui se construisent et qui ont fui. Donc, il retourne. C'est pratiquement impossible. Je vais retourner la parole.
Cher Richard, merci beaucoup pour cette analyse et ce témoignage qui est assez véridique. Et là, la question que je veux poser, et puis je vais te laisser répondre, mais après toi, j'aimerais aussi que Anicette nous en parle un peu. comment est-ce que le Rwanda fait pour tromper ou pour manipuler la communauté internationale et aussi certaines communautés de l'Afrique, parce que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous n'arrêtons pas de voir des gens qui vantent les mérites de Paul Kagame ou bien de son régime. Et puis sur le plan international, c'est vrai qu'il y a des aspects qui ont été des aspects en lien avec le non-respect des droits de l'homme et le non-respect de la dignité humaine qui ont été dévoilés par des institutions internationales telles que l'ONU, le HCR, ainsi que la Commission des droits de l'homme. Mais comment est-ce que le Rwanda fait pour détourner l'attention ou tromper l'opinion internationale ou aussi de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest? Pourrais-tu nous apporter quelques éléments de réponse sur ce sujet?
Et il a été prouvé carrément que, en fait, il a été prouvé carrément qu'ils essaient même de manipuler les chiffres. Les chiffres des statistiques, par exemple, des PIB. Ils ont des experts. Il a été vraiment prouvé, noir sur blanc, que le Rwanda a triché longtemps dans cette statistique des PIB sur le plan mondial. Maintenant, en fait, le Rwanda, donc le régime en place, savait très bien faire les lobbying d'ici par là. Et puis, il faut savoir que notre monde, c'est un monde corrompu. Le Rwanda s'est fait utiliser ce lobbying de ces multinationales, toujours, qui les sponsorise d'abord de malmener sa propre population à l'intérêt d'une aristocratie pour que ces multinationales continuent donc à s'exploiter le peuple rwandais. Et au regard, ces multinationales ont même besoin de récupérer des terres ancestrales des Rwandais. Donc les terres des Rwandais sont confisquées à l'intérêt de ces multinationales. Alors ce sont ces multinationales qui continuent donc à propager la bonne gouvernance du régime de Kigali dans le monde du Ouest africain, puisque ces multinationales ont parvenu donc à conquérir l'Afrique de l'Ouest via la chasse au pouvoir, via la chasse au pouvoir des Gbagbo. Vous savez, vous rappelez ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire lors des élections de Ouattara et consorts. Tous les mêmes multinationales qui avaient donné la direction de la banque africaine de développement avec Donald Kaberuka, vous vous rappelez. C'est ces mêmes multinationales qui continuent donc à malmener le peuple rwandais, y compris même le peuple de la République démocratique du Congo. Il n'a jamais trouvé la paix depuis les années 1996, lors de la première guerre de libération d'Isaïe à l'époque.
Et alors, Richard, est-ce que vous m'entendez? Cette première guerre de 1996, où le Rwanda, avec d'autres certains de ses partenaires, ont envahi le Congo. Vous l'avez vécu, vous. Vous étiez au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Et à cette époque, on était dans les camps de réfugiés de Mugunga.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ces camps de réfugiés?
Je me rappelle, c'était une catastrophe, puisqu'il y a eu des massacres horribles. Nous avons échappé, grâce à Dieu, je ne sais pas d'ailleurs si je peux dire. On peut encore prendre peut-être une minute de se rappeler les gens qui sont tombés dans ces camps de réfugiés là-bas. Parce que c'était là où on était, c'était là où d'ailleurs une très grande concentration de l'armée rwandaise vraiment prenait.
You have less than 1 minute.
C'est vraiment horrible, on ne sait pas. Mais quand on était, nous pouvoir avoir des éléments. Donc, il y a eu des attaques qui sont venues du Rwanda. Et même, il y a des archives d'ici par là, même les participants de cette guerre au niveau du régime de Kigali en témoignent eux-mêmes. Vous vous rappelez les propos de M. James Kabarebe, général James Kabarebe, de ce qu'il avait parlé à propos de ça. Lui, il disait qu'il était à Mugunga, toutes ces collines qu'il était en train de citer. On connaît toutes ces collines. Et on a même, après tous ces événements, il a fallu encore y retourner, commencer donc à questionner un à un, savoir exactement.
Je pense qu'on a un problème. Je pense qu'on a perdu Richard, mais on va essayer de le reconnecter. Anicette, sur la question que je venais de poser sur comment le Rwanda fait pour manipuler ou détourner l'attention de la communauté internationale, surtout aussi en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas au courant de la réalité que vivent les Rwandais au Rwanda? Je ne sais pas si tu peux apporter quelques éléments complémentaires à ceux de Richard. Entre-temps, nous allons demander aux deux d'essayer de le reconnecter. Anicette, est-ce que tu m'entends? Anicette, est-ce que tu m'entends? Tu me reçois? Visiblement des problèmes techniques, on s'excuse, on va essayer de les résoudre. En attendant, je demanderai au studio de nous mettre une chanson en attendant qu'on essaye de reconnecter nos invités.
Allô?
Merci, studio. J'aimerais savoir si nous avons pu reconnecter Anicette. Anicette, est-ce que tu m'entends?
Oui, moi je t'entends, oui.
Ah, d'accord, merci. J'aimerais aussi savoir si Richard aussi est en ligne. Richard, nous allons tenter de le reconnecter, mais en attendant, pour gagner du temps, Anicette, je ne sais pas si tu avais pu écouter... ou si tu avais entendu les questions que j'avais posées, c'était en fait se demander d'apporter des éléments complémentaires sur ce que Richard venait de nous partager en ce qui concerne la manipulation de l'État rwandais par rapport à son soi-disant développement dont tout le monde parle.
Alors, je crois que Richard l'avait bien expliqué. C'est pas parce que la communauté internationale croit réellement ce que dit le pouvoir de Kigali. C'est que tout simplement, la communauté internationale fait semblant de ne pas voir. Mais tout le monde est au courant de ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui en parlent, notamment les Rwandais, les opposants, mais aussi certains rapports des organismes internationaux ou des journalistes indépendants. Il y a eu des rapports, tout le monde sait ce qui se passe. Mais en droit international, vous le savez, dans les relations internationales plutôt, il y a deux lignes directrices. C'est d'abord, il y a la diplomatie, parce que le Rwanda joue beaucoup là-dessus. Le Rwanda investit beaucoup, Richard a parlé des lobbies, mais il y a également de l'action diplomatique classique. Aller voir les gens, expliquer, mentir sur le faux, et puis manipuler. Voilà, c'est ce qui se passe souvent. Et on déploie beaucoup de diplomates rwandais. On a créé des ambassades même là où il ne fallait pas, en Angola, au Mozambique et ailleurs, pour justement essayer d'expliquer et surtout pour empêcher ceux qui pensent différemment de parler. Là, ça joue là-dessus. Et puis, de notre côté, il y a justement les intérêts. La communauté internationale, comme je le disais, les gens, les pays extérieurs du Rwanda, des partenaires, c'est des gens ont des intérêts dans la sous-région, qui n'ont pas la volonté de se mettre sur le dos le pouvoir de Kigali, parce qu'ils ont besoin de ce régime-là dans différentes activités, pour piller le Congo ou dans d'autres domaines. Et donc, ils font semblant de ne pas voir, surtout que jusqu'à présent, ils ne voient pas d'alternative. Ils ne vont pas se créer des problèmes avec le pouvoir qui est en place à Kigali, alors que même s'ils voulaient agir, ils ne voient pas d'alternative. Donc, c'est à nous d'agir en tant que Rwandais, pensant autrement, pour que la communauté internationale puisse non seulement savoir ce qui se passe réellement, parce que nous savons que la communauté internationale sait, mais qu'elle accepte également qu'elle sait. Parce que maintenant, elle sait, elle est fait comme elle ne savait pas. C'est à nous de faire qu'elle accepte, qu'elle sait ce qui se passe au Rwanda, et surtout d'apporter des changements qui s'imposent actuellement. Merci bien.
Merci beaucoup, Anicet, pour ces éléments de complémentaires. Richard, est-ce que tu m'entends, Richard? Richard, moi je l'entends, mais lui il ne m'entend pas. Studio, pourriez-vous nous aider? Et puis, en attendant, on va se diriger vers la fin de l'émission. On va s'excuser pour tous les problèmes techniques que nous avons rencontrés. Et on promet d'améliorer cela pour la prochaine émission. Et durant cette prochaine émission, nous allons nous assurer d'avoir Richard en ligne, parce qu'il a un récit de vie assez riche que nous souhaitons qu'il partage à nos auditeurs et auditrices. Nous allons vraiment nous diriger vers la fin. En ce moment, Anicet, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs partis politiques, bien sûr, qui œuvrent à l'extérieur du Rwanda, parce que le Rwanda, moi, je n'arrête pas de dire que c'est la Corée du Nord en Afrique, et ça fait que ceux qui veulent apporter leur pierre angulaire pour proposer des solutions pour aboutir à la paix durable dans notre pays, n'ont pas d'autre choix que de travailler ou d'œuvrer à l'extérieur du Rwanda. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs mouvements en ce moment, et depuis début juillet, il y a un nouveau mouvement qui s'appelle l'Alliance rwandaise pour le changement, qui s'est invité dans cette lutte. Anicet, pourrais-tu... Oui, Richard, est-ce que tu m'entends? Voilà, je pense qu'on a toujours un problème technique, on s'excuse encore. Anicet, en attendant qu'on résolve le problème technique, est-ce que tu peux parler brièvement de l'Alliance rwandaise pour le changement et qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau pour la population rwandaise et la région des Grands Lacs?
Merci encore une fois, Achille. Tu l'as présenté, je crois. L'Alliance rwandaise pour le changement, qui est un nouveau mouvement sur la scène politique rwandaise. C'est une force politique d'opposition qui a d'abord comme objectif principal de dépasser les clivages. On a parlé tout à l'heure des ethnies au Rwanda, dont les conflits ont beaucoup endeuillé le Rwanda. Donc, le premier objectif, c'est de tout faire pour que les Rwandais se donnent la main. Les Rwandais de tous bords, de toute provenance, de toutes les origines, se donnent la main et qu'ils acceptent enfin de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble, de voir ce qui ne va pas, de consolider peut-être les forces qu'ils ont entre eux mais surtout de corriger ce qui n'a pas bien marché dans le passé. Donc, c'est se donner la main, d'accepter de travailler ensemble et de corriger le tir. Parce que depuis les années 60, les pouvoirs qui se sont succédés à la tête du pays n'ont pas œuvré dans le bon sens. Ont utilisé l'arme de discrimination, de ségrégation pour diriger le pays. Nous, nous voulons corriger le tir, rectifier le tir et donner du sens au pouvoir politique rwandais en mettant l'accent sur l'unité nationale, la réconciliation nationale. Tout faire ensemble pour que plus jamais aucun Rwandais ne soit exclu dans son pays. Voilà. On changera les choses et on fera en sorte que les Rwandais puissent développer leur pays dans la paix, la solidarité nationale, la concorde nationale et la fraternité. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, à ta question, pardon. Je sais qu'il y a d'autres forces politiques qui ont les mêmes objectifs que nous. Mais ce que nous voulons souligner surtout, c'est que ce que nous disons, nous allons le faire. Voilà, c'est peut-être la différence avec beaucoup d'autres organisations politiques qui nous ont précédés. Merci bien, Achille.
Merci beaucoup, Anitette. Et puis, là, on va aller vers la fin. Et encore une fois, je vais m'excuser auprès de ceux qui suivent la radio ITME et des auditeurs et auditrices. On va s'excuser pour tous les problèmes techniques que nous avons eus parce que ces problèmes ont dénaturé visiblement la qualité de l'émission qu'on voulait vous proposer pour prendre ces choses promises. Alors, Anicette, avant de terminer, et puis je pense que je vais renchérir par rapport à ce que tu vas dire ou ce que je vais dire. En ce moment, le régime rwandais met en place plusieurs stratégies pour terroriser et pour chasser ses opposants. Des opposants qui, je le cite, la majorité d'entre eux ont opté pour des luttes pacifistes. Mais ces gens sont traqués à l'extérieur du Rwanda, à l'intérieur du Rwanda déjà, notamment Diane Rwigara, Victoire Ingabire. Il y a des activistes tels que Karasira. Il y a un autre politicien, M. Barafinda. Il y a aussi Maître Bernard Maganda. Tout ça sont des opposants, ce sont des gens qui sont critiques du régime rwandais et qui sont traqués à l'intérieur de Rwanda. Ils vivent sous une constante menace d'assassinat ou une menace de mort ou d'emprisonnement arbitraire. Mais ce qui est particulier, c'est que même à l'extérieur, ce régime utilise les fonds publics ou l'aide qu'il reçoit, que ce soit l'aide qu'il reçoit dans ses partenariats avec des équipes telles que Arsenal ou le Paris Saint-Germain ou l'aide internationale tout simplement. Le Rwanda utilise ses fonds pour traquer, pour chasser, pour faire taire, pour nuire à toute personne qui s'oppose au régime et même quand c'est fait de façon pacifique. Qu'est-ce que les Rwandais devraient faire pour contrecarrer ces menaces? Qu'est-ce que le Rwandais ou la Rwandaise qui a le droit d'aspirer ou d'avoir ou de militer pour que son pays soit à l'image de ce que nous aspirons comme l'idéal, surtout ce que nous apprenons dans les pays dans lesquels nous vivons? Moi, je vis au Québec et au Canada et c'est un pays que j'admire pour ses valeurs démocratiques et des libertés individuelles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrecarrer ou avoir ce que j'appelle un rapport de force afin de changer les choses dans ce pays Et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour assurer la sécurité des opposants rwandais qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda? Donc, je ne sais pas si ma question est claire, mais Anicet, j'aimerais t'entendre sur ce point-là.
Bon, la question est assez claire, elle est très récurrente, elle revient souvent. S'il y a une des réussites du FPR, c'est d'avoir fait peur aux Rwandais. Là, c'est la seule réussite peut-être. Les Rwandais ont peur. Et ce n'est pas pour rien que les Rwandais ont peur. C'est que le pouvoir utilise les méthodes qu'on n'avait jamais soupçonnées. Tuer les gens en masse. Il y a des massacres de masse, et on en a un peu parlé. Mais également des disparitions forcées et puis des discours terroristes et des dirigeants. Donc les gens ont peur. Si on voulait en parler, il faut d'abord distinguer ceux qui vivent sur le terrain au Rwanda et ceux qui sont à l'extérieur. Et je commencerai par ces derniers. Je ne comprends pas comment les gens qui sont plus ou moins à l'abri, je parle des gens qui vivent à l'extérieur, notamment dans les pays lointains d'Europe, des États-Unis ou d'Australie, ne veulent pas se joindre aux autres pour titiller, pour mettre la pression sur ce pouvoir qui nous endeuille de jour en jour. Donc les gens ont peur même à 8000 kilomètres. C'est étonnant. Non? Donc il faudra qu'on y mette un peu de force pour aller voir chacun, chaque compatriote qui veut que le Rwanda change, la politique au Rwanda change, afin que tout le monde apporte sa brique pour la construction d'une nouvelle société. Donc là, ce sont des Rwandais qui vivent à l'extérieur. Pour ceux qui vivent à l'intérieur, là vraiment, je ne vais jeter la pierre à personne. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué et les gens savent ce dont le pouvoir est capable et donc ils ont peur. Ils ne veulent pas agir. Ils vivent dans la peur et ils se taisent. Il doit parler des gens, des courageux, des gens vraiment qui mettent leur vie en danger pour que le peuple rwandais soit libéré. Et je veux ici leur rendre un hommage appuyé. Tu vas citer leur nom, tu vas parler de Victoire Ingabire, tu vas parler de Diane Rwigara, de Bernard Ntaganda, de Barafinda et d'Aimable Karasira qui, pour moi, est venu s'ajouter au nombre de ces héros qui, pour moi, sont des héros et qui font tout pour que le changement puisse avoir lieu dans ce pays. Voilà, donc, sinon, pour répondre à ta question, je dis tout simplement qu'il faudra que nous autres, qui avons accepté de nous engager, devront, quoi qu'il arrive, mettre l'accent sur la sensibilisation, la mobilisation pour ceux qui ne veulent pas encore, qui n'osent pas plutôt venir vers nous. Francis, c'est le premier pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais mon observation est celle-là.
Merci beaucoup, Anicet. Et donc, nous allons vers la fin de cette émission, tout en promettant. Cette émission était diffusée en direct sur YouTube. J'ai oublié de le mentionner au début. Donc, partager cette émission, ça va nous aider à sensibiliser et à visibiliser les problèmes auxquels les Rwandais font face. Ensuite, nous allons vous préparer une deuxième émission en français, bien sûr, et nous vous aviserons de la date, de l'heure et du sujet sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram Radio Itémé, et sur Facebook, nous avons une page Radio Itémé. Pour le reste, nous vous promettons de réinviter Richard Rangira pour qu'il nous parle de son récit de vie depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce sera une émission qui sera très riche en émotions, mais qui vaut la peine parce que ces gens sont sans voix face à un régime autoritaire. Et donc, nous allons mener cette résistance pacifique. Nous allons mener cette résistance externe et interne en passant par la désobéissance civile dans les moyens que, en utilisant les moyens que nous avons pour essayer de changer les choses et l'aide de tout et chacun ou toutes et chacune est la bienvenue et est primordiale et très importante pour que nous puissions atteindre le changement dont tout le monde rêve. Parce que le changement dont nous rêvons, c'est un changement qui est basé sur ce rêve d'avoir un État qui respecte les droits de l'homme, un État qui ait des institutions indépendantes, un État où la police et l'armée sont au service de la nation et non utilisés contre la population à laquelle ils ont le devoir de défendre. Voilà, nous aspirons à un État démocratique tout simplement, et la démocratie ne se négocie pas parce qu'il s'agit des conditions de vie des gens, il s'agit de questions du respect de la dignité humaine. Et donc, sur ce, c'est le mot de la fin. Je ne sais pas si, en effet, tu avais un mot de la fin, mais c'est ça. Donc, on peut te donner quelques minutes pour adresser un mot de la fin, si jamais tu le souhaites.
Non, c'est simplement pour remercier tous ceux qui nous ont suivis, pour demander encore une fois pardon, excusez, tu l'as fait, mais pour les problèmes techniques qui n'ont pas permis à tout le monde de suivre comme il le fallait. Sinon, je remercie les collègues qui étaient à la technique. Je te remercie à toi, Achille, d'avoir animé cette émission. Je remercie Richard, même si les conditions ne lui ont pas permis de participer comme tout le monde l'aurait souhaité. Et puis, je pense que cette initiative ne va pas s'arrêter là, qu'on aura d'autres émissions, qu'il y aura d'autres invités et dans d'autres langues. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Sinon, merci à vous et encore une fois, tout le monde est invité à participer à cette mission que nous nous sommes fixés de mettre la pression sur le pouvoir rwandais afin que le peuple, notre peuple, soit définitivement libéré et qu'on puisse enfin avoir un état de droit. Merci bien.
Merci beaucoup pour ce dernier mot. Ce mot de la fin. Et donc, je vais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont suivis et qui vont nous suivre dans les prochains jours. Je remercie notre équipe technique pour tous ses efforts et toute cette bravoure qu'ils mettent, qui les habite et qui apporte beaucoup dans cette lutte pour la restauration des droits de l'homme dans notre pays. Je remercie Anicet pour avoir participé à cette émission de façon très brillante. Richard aussi, même s'il ne nous entend pas, je le remercie beaucoup d'avoir participé et nous l'inviterons encore, c'est sûr, ça c'est promis. Et voilà, donc ça sera pour une autre fois. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et s'il vous plaît, Rwandais, Rwandaises et amis du Rwanda, restons solidaires, soyons unis dans cette lutte et nous vaincrons. Merci, à la prochaine.
Mm-hmm.